Bonjour et bienvenue dans Histoire en Onde, ici Thomas Burkhardt pour vous présenter votre émission historique qui nous amène tous les mois à découvrir un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous parlerons de Pau, Pau la ville du Vergalan, de la poule au pot, mais surtout la ville d'Henri IV. Pour cette première chronique, nous retrouverons Thierry Harnais.
Bonjour.
Avec qui nous parlerons de cette ville aux mille facettes, cette ville à la fois royale, sportive et gastronomique. Avant toute chose, sachez qu'on ne parle pas de Pau avant le Moyen-Âge, car à cette époque, on se concentre plutôt sur le centre de Beneharnum, l'Escar. N'est-ce pas Thierry?
Bien sûr.
Mais donc, quand est-ce qu'on parle réellement de Pau au Moyen-Âge?
Il faut savoir que Pau, au Moyen-Âge, c'est pas une grande ville, même pour la région, on n'est pas sur une grande ville, mais c'est plutôt un arrêt pour les bergers qui se rendent à l'alpage, notamment ils se mettent sur la plaine du Pont-Long ou sur ce qui est maintenant l'actuelle place de Verdun. Mais c'est aussi un des rares guets sur le Gave, avec Naye et Oloron. Et donc on y construit un petit château en bois afin de surveiller les lieux, un château qu'on construit avec des pieux.
C'est donc pour ça qu'on l'appelle Pau d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on appelle Pau Pau, parce que le Pau c'est le pieux. C'est pour ça que chez nos amis portugais, le nom de la ville est une grivoiserie assez cocasse, puisque Pau c'est le bâton, et qu'ils s'en servent pour signifier un tout autre type de bois. Mais plus sérieusement, les premières mentions de Pau, on les retrouve au début des années 1100, dans des registres de Morlaes.
Très bien, mais véritablement, quand est-ce que Pau devient Pau? Tout du moins la ville importante, plus qu'un simple guet sur le Gave.
Pau commence à prendre une importance sous le vicomte de Béarn, Gaston VI de Montcade. C'est à ce moment-là que dans le château de Pau, on fortifie vraiment le château de Pau en pierre, et que dans le château de Pau, on place un tribunal où on juge quelques affaires par le comte, mais aussi on commence à se réunir au château de Pau pour parler de la politique du comté. Il deviendra résidence comtale bien plus tard, mais quelques fortifications apparaissent sur le château, comme notamment les tours Mazères et Bières qui sont toujours debout aujourd'hui. C'est des tours en pierre qui sont au château.
C'est donc de là d'où provient la fameuse tour rose qu'on peut voir de loin, celle du château là.
Non, eh bien non, c'est une tour, la tour Phébus, qui est donc la plus haute tour du château. Elle a été faite par un successeur de Gaston VI Montcade, Gaston III de Foix-Béarn, qu'on nomme aussi Gaston Phébus, vous le connaissez très sûrement. Et celui-ci, alors en pleine guerre de 100 ans, décide de ne donner allégeance ni à la France ni à l'Angleterre. Et donc de fortifier tout son territoire, notamment Pau, du coup, où il fait fortifier le château, et dresse cette tour. Pourquoi elle est rose, comme la plupart des constructions de Gaston Phébus? Sa famille vient de Foix, donc du comté de Toulouse, et on tire les pierres des carrières de là-bas.
Et donc après ça, on bascule dans ce que l'on appelle l'époque moderne, donc c'est l'époque de la Renaissance et qui s'étend jusqu'à la Révolution. C'est un pivot dans l'histoire du Béarn qui conduit Pau jusqu'à son apogée. C'est aussi le temps de la cour des rois de Navarre, le temps du grand Henri IV, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est à partir de François Phébus, donc roi de Navarre, qui obtient le trône de Navarre par sa grand-mère, Éléonore de Navarre, qui s'est mariée à Gaston IV de Foix-Béarn, donc un comte de Béarn. Et on voit donc, à cette époque, Pau devenir une capitale seconde de la Navarre avec Pampelune. C'est en réalité à partir de 1512 quand les Espagnols décident de prendre ce qu'on appelle la Haute Navarre, toute la Navarre espagnole, que Pau devient la capitale de la Basse Navarre, qui reste elle indépendante dans le Royaume de France. Pau devient la capitale, et on trouve vraiment un point fort, notamment à partir du neveu de François Phébus, Henri II d'Albret, que vous connaissez sûrement parce qu'il s'est marié avec Marguerite de Navarre, sœur de François Ier.
C'est donc pour ça qu'on dit que le château de Pau aujourd'hui ressemble au château de la Loire, qu'on dit qu'il en est le plus méridional.
Évidemment, c'est ce couple-là qui fait des travaux pour faire correspondre le château à l'idéal de la Renaissance. Il en creuse les murailles afin d'y placer de grandes fenêtres. Le couple fait mettre une grande terrasse, mettre des toitures sur les tours. C'est aussi à cette époque que Pau donc devient vraiment une ville royale. On y établit le Parlement de Navarre et on dote le château d'un atelier pour frapper la monnaie dans la tour de la monnaie actuellement, sur la place de la monnaie actuellement, juste en dessous du château. château. Ensuite, l'histoire de ce couple, vous la connaissez très sûrement parce que leur fille, c'est Jeanne d'Albret, la mère, et enfin qui se marie avec un prince du sang, Antoine de Bourbon, et tous les deux ont le petit Henri, futur Henri III, roi de Navarre.
C'est donc pour ça que l'on considère le château de Pau comme étant celui d'Henri IV. C'est aussi à ce moment-là qu'intervient l'anecdote donc, du baptême béarnais, qui dirait que le petit Henri réclamait davantage d'ail et de vin, ou encore l'anecdote de la carapace de tortue, n'est-ce pas ?
Et oui, parce que ce petit Henri, qui est né au château de Pau, devient donc, comme tu l'as dit, Henri IV de France, et on le pose, en effet, dans une carapace de tortue. On ne fait que le poser, en réalité. Il a dû rester au grand maximum 2 heures. Ce n'était pas son berceau à temps plein. Je pourrais beaucoup vous en parler, mais on a un petit peu une limite de temps. Cette carapace de tortue, elle a une histoire. Pour en revenir très vite sur le baptême béarnais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le grand-père d'Henri IV, Henri II d'Albret, dont j'ai parlé plus tôt, baptise Henri IV à la béarnaise, c'est-à-dire qu'il frotte de l'ail et puis il pose une goutte de jurançon à même les lèvres du nourrisson. Et Henri, en bon béarnais, en aurait évidemment redemandé. Il faut savoir que le château, on le nomme le château d'Henri IV. En réalité, Henri IV, il y séjourne pour sa naissance, puis il y passe quelques séjours. Il grandit au château de Coiraz et il revient plus dans le Béarn à partir de 1573. Il donne la possession à sa sœur qui s'en occupe jusqu'à son mariage. Puis ce sont les héritiers d'Henri IV qui prennent le relais sur la garde du château.
Et bien d'accord, mais... Que devient Pau après ça ? Donc il y a les guerres de religion, il y a la révolution qui passe par là, mais le château est épargné, il me semble, tout comme cette fameuse justement carapace de tortue, hein, qu'on a sauvée in extremis.
C'est ce qui se passe, en effet, la carapace de tortue est sauvée in extremis, si on s'en réfère à l'ordre chronologique des choses, et qu'on retourne un petit peu dans le passé, en effet, les guerres de religion passent, et Pau, pendant les guerres de religion, c'est une place protestante face à la France catholique, et donc quand elle est rattachée au royaume, quand le royaume de Navarre est rattaché au royaume de France, on a donc cette place protestante que Louis XIII, fils d'Henri IV, décide de rattacher afin d'avoir un parfait contrôle dessus, notamment afin d'y réinstaurer la foi catholique. On met une chapelle, on met une église à côté du château, l'église Saint-Martin qui était en bois à l'époque, et on décide surtout d'implanter des instituts catholiques, notamment jésuites, comme l'actuel lycée Louis Barthou, dont le bâtiment d'administration date des années du milieu du XVIIe siècle.
Et donc après ça, Pau devient quand même une grande ville, loin de la petite bourgade du Moyen-Âge. Mais comment Pau devient justement ce carrefour économique et culturel du sud-ouest de la France ?
Eh bien, c'est tout simplement pour deux raisons principales. C'est grâce à son air et grâce à sa vue que Pau prend son essor. C'est pour ce qui en est de la vue, je vais commencer par là. Je vais tout simplement faire deux citations. Napoléon Ier, en 1808, donc empereur de France, décide de passer à Pau en revenant d'Espagne, s'arrête là et dit que, et je cite, « La ville est médiocre, le château est en ruine ». Mais le paysage est merveilleux. En effet, à ce moment-là, le château est abandonné complètement par les rois de Navarre, par les rois de France et de Navarre, la ville étant désuétude. Et puis, plus tard au XIXe siècle, Lamartine, Alphonse de Lamartine, grande figure politique, nous dit que Pau est la plus belle vue de terre du monde, comme Naples est la plus belle vue de mer.
Et donc c'est aussi là que l'on dit que l'air de Pau, qu'il est vivifiant, que Pau devient donc un centre touristique, notamment pour les Anglais, avec le premier terrain de golf mondial en dehors des îles britanniques, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, vous faites bien de me le rappeler, parce que j'ai parlé de la vue, mais on a donc un médecin écossais, Alexandre Taylor, qui au milieu du 19e siècle nous dit que l'air de Pau est absolument incroyable. Il écrit un ouvrage, et dans cet ouvrage, du coup, il fait la promotion de l'air de Pau, de ses bienfaits pour la santé, et des cure thermale à côté de Pau, notamment aux Aubonnes, ce qui amène une très forte vague de touristes britanniques, ce qui fait de Pau, pendant un moment au 19e siècle, la deuxième ville la plus visitée de France après Paris. Pau, à la fin du 18e et début 19e, donc dans la même période, devient aussi une ville doublement royale, parce que un maréchal napoléonien, Jean-Baptiste Bernadotte, naît à Pau. Et il devient le roi Karl XIV de Suède. Sa dynastie tient toujours, c'est toujours de ses descendants qui sont sur le trône, avec l'actuel Karl XVI Gustave, sur le trône de Suède. Donc Pau est une ville doublement royale à partir de ce moment-là aussi, ce qui participe à sa renommée.
Mais Pau devient une ville si importante que cela au 19e. Enfin, n'étant pas d'ici, je m'étonne de savoir que Pau a été aussi attractive dans le passé. Pas que la ville soit affreuse ou désagréable, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais disons que Pau n'est pas une ville si connue que ça au niveau national aujourd'hui.
Eh bien, sachez-le, hein, Pau à l'époque, c'était pas reconnu nationalement, c'était reconnu internationalement, comme j'ai dit, pour ses cures thermales, mais aussi pour ses grandes plaines au nord, comme la plaine du Pont Long, qui est actuellement utilisée avec l'aéroport, mais qui, à l'époque, voyait la première école d'aviation du monde qui s'y mettre, comme vous l'avez dit, le golfe. Le premier golf en dehors des îles britanniques, mais bien d'autres choses, comme de superbes hôtels, comme l'Hôtel de France ou l'Hôtel Gassion.
Ah oui, il me semble même que le fameux Hôtel Gassion fut l'un des plus modernes de son temps, soit avec l'ascenseur hydraulique ou même l'eau électricité à tous les étages. Il me semble que c'était aussi le lieu de résidence de la veuve Lincoln, non ?
Tout à fait, et bien d'autres personnalités, mais oui, Mary Todd Lincoln vient ici après le décès de son mari causé par John Wilkes Booth, mais Pau accueille aussi de nombreux rois, comme par exemple George V et Édouard VII d'Angleterre, qui séjournent à l'hôtel Gassion, comme le font leurs cousins, Alphonse XIII d'Espagne, voire même Marie du Portugal. Pau est donc un endroit de villégiature, même pour les plus grandes, l'Europe du XIXe siècle. Surtout, on retrouve des rois et des empereurs français, comme Louis-Philippe Ier ou Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, donc président et empereur, qui font de grands travaux pour rénover le château afin d'y habiter. Mais pour ça, je vous invite à visiter le château plutôt que vous expliquer, ils le feront bien mieux que moi. Et en plus, c'est une très belle bâtisse. Plus tard, dans les années folles, on voit les dernières heures du grand tourisme anglais à Pau, qui s'estompera réellement avec la Seconde Guerre mondiale. Mais notamment, donc, dans les années folles, on peut voir la construction du palais Beaumont, un grand casino, mais aussi les dernières constructions de grandes villas anglaises, notamment sur les allées 13 Pouailles. Maintenant, Pau, c'est connu pour toujours un petit peu l'aéronautique. La plaine du Pont Long a toujours une certaine renommée, mais surtout pour Total Pau, basé donc sur un des plus gros gisements de gaz d'Europe, le gisement de Lac, qui se situe à une trentaine de kilomètres d'ici. Je vous aurais bien parlé un petit peu plus longuement de Pau à notre époque, maintenant, tout de suite, mais malheureusement, nous sommes limités un petit peu par le temps.
Eh bien voilà, c'était une histoire certes résumée de Pau, mais nous en serons déjà remis plus sur cette ville dans laquelle nous nous levons chaque jour, du moins pour une partie d'entre nous. Retrouvez-nous le mois prochain, ou du moins retrouvez nos collègues pour une prochaine émission qui portera sur un autre thème. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, et surtout n'oubliez pas, l'histoire c'est vieux, c'est fin,
ça se mange sans fin.